Sur RFI, il est maintenant 16h, temps universel, 17h, ici à Paris. Bonjour, bienvenue.
Charlotte Hydrac.
Nouvelle étape de l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Israël a libéré aujourd'hui 200 détenus palestiniens en échange de 4 soldates israéliennes par le Hamas. Le gel de l'aide étrangère américaine, Washington met ses programmes en pause, le temps d'un réexamen complet. Israël et l'Égypte sont épargnés, tout comme l'aide alimentaire d'urgence. À suivre aussi une élection pour un 7e mandat. Demain en Biélorussie, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 30 ans, entend bien y rester, indéboulonnable et impitoyable avec ses opposants. Reportage à suivre à Minsk. Et puis un congrès crucial des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Les membres du FLNKS divisés entre ligne dure et ouverture avant des discussions qui doivent s'ouvrir prochainement à Paris. Oui, ce sont donc 200 détenus palestiniens qui ont quitté les prisons israéliennes ce samedi. Parmi eux, 70 ont été expulsés vers l'Égypte. Des libérations prévues par l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Comme prévu, en échange, 4 soldates israéliennes ont été libérées dans la bande de Gaza. Sami Bourlifa.
La libération des soldats israéliennes a eu lieu à Gazaville, place de la Palestine. Le Hamas joue toujours sur les symboles pour envoyer des messages. C'est sa méthode et celui-ci est assez explicite. Une cérémonie et une mise en scène digne d'un film. Les soldats israéliennes ont été relâchés en uniforme militaire flambant neuf, contrairement aux précédentes otages libérées en habit civil. Sous la contrainte, elles sont apparues tout sourire et ont salué la foule. Le Hamas refuse de qualifier ses soldats d'otages et parle de prisonniers de guerre. En échange de leur libération, Israël relâche ce samedi 200 détenus palestiniens. Au 7e jour de ce cessez-le-feu, les forces d'occupation israéliennes doivent se retirer du centre de la bande de Gaza. En théorie, à partir de demain dimanche, les Gazaouis pourront se déplacer librement dans l'enclave entre le sud et le nord. Mais le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce qu'il conditionne finalement ce retour des Gazaouis dans le nord à la libération d'Arbel Yehoud, une otage civile israélienne. Elle sera libérée samedi 1er février, lui répond le Hamas. Sami Bourlifa, Jérusalem. RFI.
Israël accusé de tergiverser par l'armée libanaise alors que le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban doit être effectif en principe demain d'après l'accord de cessez-le-feu signé fin novembre avec le Hezbollah. Mais l'État hébreu estime que le mouvement chiite ne tient pas ses engagements. L'armée israélienne a d'ailleurs déconseillé aux habitants de plusieurs localités du sud du Liban de revenir chez eux jusqu'à nouvel ordre. Israël et l'Égypte, ce sont les deux pays épargnés par le gel de l'aide étrangère américaine, comme l'aide alimentaire d'urgence. Pour le reste, tout a été gelé à Washington. Les États-Unis mettent les programmes en pause, le temps d'un réexamen complet, a souligné le nouveau secrétaire d'État Marco Rubio. Et pour les organisations humanitaires, cela ouvre une période de doute, comme pour Oxfam, qui mène des actions dans une quarantaine de pays. Louis-Nicolas Jandot est responsable humanitaire pour l'ONG.
On est extrêmement effrayé par cette annonce. Ça fait rentrer le monde de l'humanitaire dans son entièreté, dans une incertitude terrible sur tous les programmes d'aide humanitaire, évidemment américain, mais compte tenu du poids des États-Unis, c'est vraiment la réponse à toutes les crises humanitaires actuelles qui est remise en question. Il faut avoir en tête que les États-Unis sont le principal bailleur d'aide humanitaire et de très très loin. Ça fait par exemple, ça fait planer un doute complet sur certains programmes qu'on a engagés au Liban, où aujourd'hui, à titre d'idée, donc c'est 40% de l'aide humanitaire engagée qui devait être fournie par les États-Unis. Et donc nous, ça veut dire que sur nos 5 programmes spécifiquement en réponse à ce plan humanitaire, eh ben on en a au moins 2 où on n'a plus aucune certitude qu'on va pouvoir les mettre en œuvre sur l'année à venir.
Voilà, Louis-Nicolas Jandot d'Oxfam, joint par Nicolas Feldman. Incertitude aussi en Ukraine, dans sa guerre contre la Russie. Le président Volodymyr Zelensky a de nouveau prévenu, pas de discussion de paix sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Il appelle ses alliés à trouver un format de pourparler avec Moscou. 70 ans, dont 30 passés au pouvoir, et cela devrait continuer. En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko est le principal candidat à l'élection présidentielle. Il brigue un 7e mandat. Le scrutin pour la majorité des électeurs, ce sera demain. Ce proche du président Poutine, autocrate assumé, reste un pilier pour un socle de Biélorusses impitoyable aussi envers les opposants. Le précédent scrutin, en 2020, avait été marqué par une contestation sans précédent et une répression dans la foulée menée d'une main de fer. Reportage à Minsk, signé Anissa El-Jabri.
À la vue d'un micro étranger, souvent un geste de refus, sans parole, quant aux questions sur les élections.
Aucun commentaire, malheureusement. J'ai bien mon opinion, mais je ne la donnerai pas tant que je suis dans ce pays. Même là, quand je vous parle, je fais attention. Je ne sais pas très bien qui pourrait entendre mes paroles. C'est comme ça qu'on vit ici. On ne peut pas être nous-mêmes.
Un homme rencontré dans les rues de Minsk dit avoir vu, après 2020, la moitié de son cercle d'amis quitter le pays. Lui, c'est certain, ne se déplacera pas pour aller voter.
Il n'y a aucun choix. Les candidats face au président ne sont pas des gens qui veulent changer quoi que ce soit. Ils sont juste là pour créer une illusion de compétition, rien de plus. Je pense que le climat global déclenche beaucoup de tristesse chez les gens.
Le pouvoir, lui, fait tout pour mobiliser, notamment les jeunes. Ce vendredi après-midi, au siège de la commission électorale, était organisé un tournoi de jeux. Plusieurs jeunes attablés pour une forme de jeu de loi où chacun tente de faire gagner son candidat.
Moi, j'ai pris le personnage d'inspecteur de police. J'ai toujours voulu travailler dans les forces de l'ordre, alors j'ai décidé d'avoir ce métier, au moins dans le jeu. Et puis, ça veut dire avoir dans son programme un renforcement des mesures anticorruption, une augmentation du budget des agences de sécurité, une implication de la société civile dans la surveillance dans les régions. Je crois que ce sont des sujets importants pour tout le monde.
Depuis des mois, les services de sécurité biélorusses évoquent un complot occidental à l'œuvre contre le scrutin. Anissa Jabri, Minsk, RFI.
Des pressions diplomatiques pour l'arrêt des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Affrontement entre l'armée et ses alliés d'un côté. Rebelles du M23 soutenus par des militaires rwandais de l'autre autour de Goma. L'Union européenne appelle Kigali à cesser de soutenir le M23. L'Angola appelle à la reprise des négociations de paix. Et l'Union africaine vient d'appeler à la cessation immédiate des combats, des appels au calme qui résonnent dans le vide pour le moment. En France, c'est acté, la Fondation Abbé Pierre change officiellement de nom. C'est publié au JO ce samedi. Après les scandales autour de son fondateur visé par plus de 30 accusations de violences sexuelles, l'organisation va désormais s'appeler Fondation pour le logement des défavorisés. Selon son délégué général, le combat sans l'Abbé Pierre reste le même. RFI 3h08 du matin à Nouméa, c'est un congrès indépendantiste crucial qui se déroule ce week-end en Nouvelle-Calédonie. La ligne dure était sortie gagnante du précédent congrès du Front de Libération Kanak Socialiste. Elle tentera à nouveau d'imposer ses choix et cela pourrait avoir de sérieuses conséquences sur les discussions sur l'avenir du territoire qui doivent s'ouvrir prochainement à Paris. D'ailleurs, le lieu choisi pour ce congrès du FLNKS ne doit rien au hasard, Charlotte Manvi.
Au cœur de la tribu de Saint-Louis, le lieu-dit Les Quatre Cocotiers n'est autre que le fief de Christian Théin, le leader de la CCAT à l'origine de la mobilisation contre une réforme électorale qui a dégénéré en émeute le 13 mai dernier. Christian Théin est en détention provisoire pour son rôle présumé dans l'organisation des violences, ce qui ne l'a pas empêché d'être porté à la tête du FLNKS il y a 6 mois, et ses soutiens veulent désormais le voir sur la liste de la délégation qui doit aller à Paris, Mouné Nico Aouchas, présidente du mouvement nationaliste souverainiste indépendantiste.
Il est présumé innocent, hein. Donc ça c'est important de le rappeler, il y a la présomption d'innocence. Aujourd'hui l'État français a sous ses verrous le président et le leader de la mouvance indépendantiste et il est important qu'il soit là à la table des négociations.
Une demande portée par la frange radicale qui ne fait pas l'unanimité. Mais les jeunes sont chauffés à blanc par une série de mesures qui touchent d'abord les classes populaires où les Kanaks sont majoritaires. L'attention est palpable, souligne Sylvain Pabouti de la dynamique unitaire sud.
On a qualifié à un moment donné donc, de politique de punition collective, notamment des familles océaniennes et kanaks. Ça met beaucoup en colère les jeunes et puis après on se demande pourquoi il y a des événements qui arrivent.
On saura dimanche soir si Christian Théin fait partie de la délégation censée discuter à Paris. Charlotte Manvi, Saint-Louis au Mont d'Or, RFI.
Et puis c'est gagné, elle n'était pas forcément la favorite des pronostics. L'américaine Madison Keys a surpris la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka à l'Open d'Australie de tennis et remporte son premier grand chelem 6-3-2-6-7-5. Madison Keys qui va grimper au classement mondial de la 14e place à la 7e. Les sportives à l'honneur tout de suite dans Mondial Sport avec vous Hugo Moissonnier. Bonne émission.